Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture, spectacle, visite et initiative. L'Anjou va vous surprendre par sa richesse. Et nous sommes 6 dans l'émission pour satisfaire votre curiosité. Avec moi aujourd'hui pour animer cette émission, Dominique et Cécile.
Bonjour Marie.
C'est une des plus grandes abbayes médiévales d'Anjou et elle est méconnue. Dominique, vous nous emmenez à l'abbaye de Nyoiseau, quasi à l'abandon mais en cours de restauration. Avec nous pour en parler, Maurizio Galante et Tal Lankmann, les propriétaires. Avec vous Cécile, Angers Musée Vivant. Depuis plus de 40 ans, l'association œuvre pour le rayonnement des musées d'Angers et la diffusion de l'histoire de l'art. Conférences, visites et associations avec sa présidente Agnès Rossino. En fin d'émission, nous retrouverons Marie-Josée Dean qui nous partage son coup de cœur littéraire de la rentrée, l'autrice italienne Viola Ardone. Nous allons retrouver Cécile dans quelques secondes. Fréquenter les musées en étant moins bête. Cécile, c'est possible ? Angers Musée Vivant est là pour nous.
Eh oui, visite guidée, conférence Histoire de l'art, un magnifique programme qui nous est offert par Angers Musée Vivant, qui a débuté cette année déjà sur l'animal dans l'art. Donc en fait, moins bête ou plus bête, c'est à voir, on va le découvrir aujourd'hui. Agnès Rossino, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de cette association qui existe depuis 1979, qui reste très dynamique au regard du programme qu'on va découvrir ensemble là, dans les instants qui viennent, et de ses 700 adhérents, ce qui est très conséquent. Alors, il y a un certain nombre d'activités, mais on voudrait avant tout savoir quelle est l'histoire et la genèse de Angers Musée Vivant.
Ah, l'histoire, ça, c'est peut-être un peu compliqué. Disons qu'Angers Musée Vivant a été créé par Viviane Huchard, d'ailleurs, qui était une des conservatrices des musées d'Angers il y a une quarantaine d'années, qui était une conservatrice importante, puisque c'est elle qui a créé la galerie David d'Angers, qui en a suivi la muséographie. Donc elle a créé Angers Musée Vivant parce qu'elle avait besoin d'avoir auprès d'elle une association d'amis. Les associations d'amis de musées, il y en a dans tous les musées de France, il y en a à peu près de 300. Et c'est elle qui se chargeait, parce que les choses ont un petit peu évolué depuis, qui se chargeait de faire venir le public dans les musées, d'assurer des visites d'exposition, des animations en tout genre, concerts ou autres, pour faire venir le public. Et il y a 40 ans, je ne sais pas si les personnes qui sont autour de moi se souviennent du musée des Beaux-Arts, mais c'était quelque chose, on n'avait pas très envie d'y aller. Il pleuvait dans l'escalier, les planchers s'effondraient. Enfin bref, c'était les musées d'il y a 40 ans ou 50 ans qui ont été vraiment considérablement changés et améliorés depuis cette époque. Et donc,
il n'y avait pas de médiation à l'époque dans les musées.
Alors voilà, il n'y avait pas de médiation et c'était le rôle des associations d'amis de musées. Donc Angers Musée Vivant faisait ce rôle. Maintenant, il y a un service des publics, en tout cas à Angers, très efficace. Donc l'association des amis s'est mise un petit peu en retrait pour cela, bien que nous sommes toujours en contact avec eux et que nous organisons pour nos adhérents de nombreuses visites dans toutes les expositions avec les conservateurs, les commissaires d'exposition, etc. Donc l'association s'est un petit peu développée en s'intéressant beaucoup plus à l'histoire de l'art en général et en organisant de nombreuses conférences sur l'art, sur l'histoire de l'art, qui ne sont pas forcément des sujets traités au même moment par les musées d'Angers. On choisit nos sujets en fonction de l'actualité général de l'art.
National ou autre, oui, voilà. Ça n'a pas forcément un lien voilà. avec l'actualité des musées. Et vous êtes aussi partenaire des musées, mais on en parlera après. Vous organisez donc des conférences, vous l'avez dit. Alors, il y a trois types de conférences cette année. Les chemins de l'art avec l'animal, on l'a dit. Ensuite, il y a les conférences de l'école du Louvre. Et enfin, un après-midi pour l'art, généralement plus consacré au patrimoine artistique régional. Alors, commençons par l'animal dans l'art. Comment vous avez choisi ce thème ?
Ben écoutez, les thèmes se suivent les uns et les autres. On a organisé l'année dernière un cycle sur la femme dans l'art, enfin les artistes femmes. Et nous avions invité une jeune conservatrice qui reviendra d'ailleurs cette année, qui est toujours au musée d'Orsay. Et qui avait organisé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, une très belle exposition au musée d'Orsay sur Rosa Bonheur, qui est une artiste du 19e siècle, qui s'est entièrement consacré à la peinture et un peu la sculpture d'animaux. Elle avait d'ailleurs elle-même une ménagerie, elle était très connue et vendait énormément aux États-Unis, en Angleterre. Donc elle avait acheté, alors qu'elle était issue d'une famille très modeste, elle a pu, elle, grâce à son travail, acheter un château près de Fontainebleau, avec un immense terrain où elle avait des lions, je ne sais plus quoi encore, enfin, énormément d'animaux, je crois une centaine d'animaux. Et ces animaux, finalement, c'était ses sujets.
Oui, c'est ça, elle peignait d'après nature.
Voilà. Ils n'étaient pas, eux, tellement dans la nature. Enfin, c'était une nature un peu reconstituée, surtout lorsqu'il s'agissait de félins africains. Mais en tout cas, elle les peignait dans un univers naturel.
Et donc c'est ça qui a déclenché ce choix. Alors juste rapidement, est-ce qu'il y a dans l'histoire de l'art une évolution très nette dans le traitement artistique de l'animal ? Ou est-ce qu'il y a une espèce de continuité ?
Ah non, il y a vraiment une évolution. Déjà, jusqu'à la fin du XVIe siècle, on ne s'intéressait pas aux animaux. C'est Léonard de Vinci qui a commencé à s'intéresser, mais d'une manière scientifique. Il a commencé à disséquer des animaux pour essayer de savoir comment ils étaient organisés. Donc, lui a commencé à s'y intéresser, mais pas d'une manière artistique, d'une manière scientifique. Et puis ensuite, il y a eu Buffon, qui a commencé avec son encyclopédie. Et alors là, il faisait peindre des animaux par des artistes. Donc, c'est un petit peu le début. Mais ce qui a été vraiment le début de... Parce que nous, le sujet, c'est l'animal, c'est pas tous les animaux qu'on trouve dans la peinture. C'est l'animal traité en tant que sujet.
En tant que sujet.
Voilà. Oui. Et donc, les premiers qui ont commencé à traiter ce sujet-là d'une manière assez développée, ce sont les Flamands. Et d'ailleurs, dans les conférences, il y aura une conférence sur les artistes flamands du XVIIe siècle qui, eux, ont commencé à vouloir peindre les animaux, non pas d'une manière imaginée, mais tels qu'ils étaient dans la nature. Donc c'est eux qui ont commencé. Et puis après, l'évolution s'est faite de siècle en siècle. Au XVIIIe siècle, l'animal est vraiment devenu sujet pour un certain nombre d'artistes. Des artistes comme Oudry peignaient les chiens de Louis XV avec leur nom. Enfin, c'était pour lui, chaque chien avait sa personnalité. Donc il essayait de montrer la personnalité de chaque chien dans ses œuvres. Et c'est d'ailleurs, ce sont des tableaux extraordinaires pour ça. Et puis ensuite, on a, au XIXe siècle, là, on a commencé à chercher le mouvement. Et là, ça a été très intéressant parce que Delacroix, par exemple, a essayé de trouver le mouvement du cheval au galop. Mmh. Et donc, dans ses œuvres, d'ailleurs, on voit des chevaux au galop et on voit bien qu'il y a un moment, quand un cheval est au galop, aucune patte ne touche le sol.
Je vais être obligée de vous couper parce que c'est passionnant, mais il faut qu'on avance sur le reste du programme. Mais voilà, ce que vous avez montré là, c'est toute la richesse qu'on peut avoir dans ce suivi de conférences. Je suis désolée, on pourrait rester une heure sur les animaux.
En suivant les conférences, je crois.
Il y a ensuite l'école du Louvre, avec les arts décoratifs et vie élégante au XIXe siècle. C'est vous qui avez choisi le thème ou c'est l'école du Louvre ?
Là, on choisit toujours les thèmes avec l'école du Louvre.
Avec l'école du Louvre.
C'est un sujet qui qu'on a trouvé intéressant. C'est un sujet plutôt de décoration, donc c'est complètement différent du
précédent. C'est les arts décoratifs.
C'est plutôt, voilà, les arts décoratifs.
Grande expansion au 19e siècle, donc on comprend la cohérence. Donc on remarquera au travers de ce que vous avez dit auparavant et de l'école du Louvre que vous avez quand même des intervenants d'une extrême qualité. C'est-à-dire qu'il faut que nos auditeurs prennent conscience de cette richesse que vous apportez au niveau des auditeurs. Et il y a aussi, parce qu'on est pressé par le temps, un après-midi pour l'art. Le principe, je crois, c'est que vous parlez plus de l'actualité ou des œuvres régionales, c'est bien ça ?
Oui, plutôt du patrimoine régional. Bon, par exemple, actuellement, la Maison Bleue à Angers, qui est une maison faite par Odorico, qui était une entreprise de mosaïstes au 19e siècle, qui est en train d'être restaurée. Donc, on a demandé à une jeune femme qui est spécialiste dans les mosaïques de nous faire une conférence, par exemple. Donc ça, c'est lié à l'actualité d'Angers, mais il peut y avoir aussi d'autres sujets plus... Par exemple, on a demandé au conservateur du musée Joseph Denet à Beaufort-en-Vallée de nous parler de son cabinet de curiosité, qui est très important dans ce musée-là. Et c'est un sujet un petit peu en rapport avec l'animal dans l'art, justement. Les cabinets de curiosité...
Où il y a beaucoup d'animaux rentrant... Quand on rentre dans le musée Joseph Denet, mais alors là, des animaux, des vrais.
Oui.
Des vrais. C'est un musée qui est absolument méconnu. Il ne fait pas partie de vos partenaires.
Non, mais disons qu'on essaye aussi de montrer ce qu'il y a dans tous les musées de notre région, et pas que de notre région, puisqu'on fait des excursions plus éloignées. Mais déjà, faire connaître les musées de notre département. Il y a le musée Joseph Denet, il y a le musée... Paul Desbois, Jules Desbois, pardon. Les musées de Cholet sont passionnants. On a dans notre région énormément de musées qui font des choses formidables et on essaye aussi d'y emmener nos adhérents pour qu'ils les découvrent.
Oui, parce que c'est un autre volet. Il y a les conférences dont on a parlé et vous organisez aussi des excursions dans les différents musées.
Pas uniquement musée, patrimoine aussi, découverte du patrimoine.
Vous êtes partenaire des musées d'Angers. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous faites pour eux, autre que les visites ?
Alors, on est partenaire de la ville et des musées. Nous, c'est presque l'action la plus noble de l'association. C'est-à-dire que lorsqu'on a des bénéfices de toutes les activités que l'on fait, on les reverse au musée en mécénat. Donc, on achète régulièrement des œuvres, on participe à des restaurations d'œuvres pour des expositions. Par exemple, pour l'exposition Le Neveu, on avait fait restaurer cinq esquisses de Le Neveu qui ont été exposées. On vient d'acheter des objets provenant d'une collection qui vient d'être vendue, une collection d'un Angevin. Donc on achète des œuvres en concertation, bien sûr, avec les conservateurs et la directrice des musées, Anne Hénaud. Donc c'est un choix qui est fait ensemble.
Ensemble et donc en cohérence. Pour finir, Angers Musée Vivant, c'est la culture, on l'a vu, une culture très riche avec des intervenants de qualité, mais c'est aussi un formidable lieu de lien social.
Bien sûr, parce que les personnes qui viennent se rencontrent et sont contentes de se rencontrer, se retrouvent dans les excursions, on déjeune ensemble aux excursions, donc on finit par se connaître. Et pour beaucoup de gens un peu isolés, on a beaucoup de nouveaux Angevins qui viennent dans notre association et qui sont très contents de rencontrer d'autres plus anciens Angevins. Donc c'est vraiment un lieu de lien social, c'est très important pour nous.
Autour d'une passion, la culture.
Voilà.
Agnès Roussineau, merci beaucoup. On peut toujours s'inscrire, même si l'année est commencée.
Ah ben bien sûr, on s'inscrit toute l'année.
Merci Agnès Roussineau, merci Cécile. À noter que l'association fonctionne avec une cotisation annuelle et ensuite on s'inscrit au cycle ou aux visites qui nous intéressent. Tous les renseignements sur le site angersmuseevivant.fr. Une petite pause musicale ? On va retrouver le groupe Retriever qui se produira au Garage à Angers le 18 octobre et ensuite Dominique et l'abbaye de Nyoiseau.
So many riddles and question marks. I hope it's bright where you are. Behind stained glass. It brings colors to these photographs. Life goes on in our separate zones. I'm searching for a home away from home. Purple are the wine stains on my lips, my tattooed palm, my bloody fist. Purple are the wet paint I have kissed, a shiny shot across my wrist. Purple.
Franche culture. La curiosité sous toutes ses coutures. Dominique, aujourd'hui, vous nous parlez d'une ancienne abbaye, plutôt méconnue du public, et pourtant au Moyen-Âge, c'était l'une des trois plus importantes d'Anjou.
Et oui, et cette abbaye, elle se situe à Nyoiseau. C'est un petit village à quelques kilomètres à l'ouest de Segré, juste au bord de Loudon. Village d'ailleurs qui s'est surtout développé après l'extinction de l'abbaye. Cette abbaye, on l'appelle aussi abbaye royale Notre-Dame, car c'est un établissement bénédictin de femmes, royal parce que placé sous la protection de Foulque d'Anjou et de Charles d'Anjou, qui était aussi roi de Sicile. Fondée en 1100, elle a un lien très particulier avec Fontevraud, l'abbaye, qui a formé la plupart de ses 38 abbesses.
Alors qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de cette abbaye ?
L'église abbatiale, malheureusement, était romane. Elle a été incendiée à la Révolution française après confiscation des biens de l'église. Et les autres bâtiments construits, eux, plutôt au XVIIe siècle, ont été sauvegardés parce qu'ils ont été rachetés et réutilisés. Dans ce petit village de Nyoiseau, on les distingue bien, tous ces bâtiments, et on comprend l'importance de cet ensemble avec le logis des aumôniers, la grange, le logis de l'économe, qui est l'ancienne mairie d'ailleurs, les magasins, les cuisines, le logement et le parloir de l'abbesse. Et la première qualité de ces édifices, ce sont leurs superbes structures en bois, les planchers et les charpentes, avec leurs hautes toitures d'ardoise.
Dominique, nous recevons dans le studio de Radio Campus Maurizio Galante et Tal Lankmann. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Les nouveaux propriétaires de l'aile ouest du cloître.
Et oui, c'est un bâtiment abandonné depuis plusieurs dizaines d'années et vous avez engagé une restauration complète pour y installer un projet très ambitieux.
Oui.
Alors, vous venez de Paris, mais vous avez vécu l'un à Rome et l'autre à Jérusalem. Ouais. Alors comment est-ce qu'on découvre, venant d'aussi loin, un coin aussi perdu que ce petit village d'Anjou ?
Alors justement, venant de Rome et de Jérusalem, on ne peut qu'aimer des pierres. Et les pierres, elles racontent l'âme, elles racontent l'histoire, la patine et tout. Et quand on a vu ce bâtiment, on est tombé amoureux. Voilà. Et c'est magnifique, c'est en même temps somptueux et énorme et en même temps minimaliste, voilà, comme c'était Benedetta.
Mais qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'à Nyoiseau ?
Ben, on cherchait un lieu pour avoir...
Les petites annonces les...
Ben, justement, oui.
L'agenda du patrimoine.
À travers Internet,
ah, oui.
On est tombé sur cet bien. Et tout de suite, on a visité. Et voilà, le charme s'est fait.
Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a des éléments particuliers de ces bâtiments qui ont un charme, qui ont tout de suite conduit votre projet ?
Alors déjà, c'est pas... moi, je rigole tout le temps avec Tal, quoi. On, quand on rencontre beaucoup de monde qui a des biens à côté. Nous, on n'a pas quelque chose qui appartient à cette terre, mais on a plutôt quelque chose qui appartient au ciel. Alors, les bâtiments, il a une autre forme, il a une autre énergie, et là, il est vraiment différent dans les autres. Et c'est sa beauté.
Parce que généralement, les gens qui viennent d'assez loin achètent plutôt un château, un manoir. Vous, ce n'était pas du tout votre projet. Vous, c'était au contraire d'acheter, je dirais, un monument un peu atypique.
Oui, on voulait surtout acheter quelque chose que ça nous touche à niveau émotionnel. On croit beaucoup qu'aujourd'hui, les émotions, ils sont à la base de tout. On a besoin d'émotions, de bonnes émotions surtout.
D'accord. Et donc ce projet, on en parlera sur le plan financier un peu plus tard,
oui.
Mais c'est un projet de très très longue...
C'est le projet de notre vie, non?
Oui, c'est un projet de...
vu à niveau d'investissement et vu à niveau des temps, quoi. C'est un projet qui était complètement abandonné. C'est comme une personne qui a besoin de beaucoup de caresses.
Voilà. Ouais. Alors, c'est un projet à la fois dans l'intérêt de restaurer un monument ancien,
oui.
Mais c'est aussi un projet pour y installer une activité professionnelle.
Oui, nous sommes dans la continuité avec ce qu'on sait faire, ce qu'on a fait depuis le début de notre carrière. Alors, Maurizio, il est couturier designer et moi je suis designer et je travaille aussi comme chercheur de tendances. Et puis on travaille depuis beaucoup d'années avec des écoles dans le monde entier pour faire des ateliers avec des jeunes designers, avec des étudiants dans le domaine de design et de mode. Et on travaille avec plusieurs écoles au Mexique, en Italie. En France, en Australie, en Israël. Et puis l'idée, c'est de faire un projet qui est culturel et éducationnel.
D'accord, donc sur place, déjà actuellement, il y a une structure de création, de design et de mode. Mais vous avez aussi, je crois, cherché des ouvertures vers la création, l'enseignement. Les expositions,
oui, quand
les conférences.
Oui, quand Tal parle d'école, on parle d'université. Voilà, ça c'est l'âge que ça nous intéresse et qu'on aimerait bien toucher, qu'on touche déjà. Dans la propriété juste derrière, à côté du cloître, il y a une ancienne école, c'est une petite structure à peu près 100 mètres carrés, 1920. Qu'en entrant là aussi, de faire des petits travaux et de la faire revivre, ça aussi. Et après, on a une grande salle, que c'était la salle de réception de l'abbaye, très très belle, dans les grands bâtiments. Et là, on aimerait bien faire quelque chose que c'est plutôt au niveau des expositions. Notre idée, c'est de mettre ensemble qu'est-ce que c'est la créativité d'ici, par exemple, des artisans, et aussi. Qu'est-ce que ça vient d'ailleurs? Alors, de faire toujours travailler ensemble un créatif et un artisan,
oui.
Que ça peut venir de deux pays différents, et les résultats de l'exposer chez nous.
D'accord. Et effectivement, le Segréen est un territoire d'artisans, notamment d'artisans autour du meuble. Je crois que Poincé est depuis très très longtemps connu pour la fabrication de meubles. Vous, c'est plutôt le meuble, c'est plutôt l'objet design, ou c'est plutôt l'installation, en plus du côté mode dont vous nous avez parlé?
Alors, je dirais, dis-moi si je me trompe, on est assez atypique dans le sens qu'on n'aime pas cette notion de se mettre dans des boîtes, design, mode, meubles et tout. On travaille plutôt sur la créativité. Voilà, on peut travailler dans les meubles, on fait des intérieurs, on a fait des restaurants, on a fait des boutiques, des musées. On continue à faire ça, on donne des conseils, on est assez large à niveau créatif.
Oui,
et c'est ça notre force, et qu'est-ce que ça nous fait plaisir?
Oui, notre démarche, elle est transversale, en fait. On travaille dans les disciplines différentes de design et d'art, et nous sommes aussi directeurs artistiques, concepteurs pour des projets.
Parlez près du micro, n'hésitez
oui,
pas.
Oui,
okay. Ça va aider le technicien, Étienne.
Ok. Et voilà, alors en fait, l'expérience qu'on fait dans un domaine, il projette et inspire des autres domaines. L'important, c'est d'avoir une vraie écriture reconnaissable et mémorable qui pourrait être exploitable dans les domaines différents.
Alors aujourd'hui, vous avez lancé un énorme chantier. Je crois qu'on parle d'1 million d'euros.
Oui.
Autour de l'aile ouest du bâtiment, enfin du cloître, pardon. Oui. Alors ce bâtiment, il est vraiment exceptionnel. Est-ce que vous pourriez le décrire quelles sont ses caractéristiques principales, cette grande aile de l'aile ouest du cloître?
Alors c'était le bâtiment qui, entre guillemets, il servait pour recevoir le public. Alors il avait une fonction très importante.
C'est l'aile des hôtes, oui.
Voilà.
C'est
l'aile des hôtes. Et il avait une salle pour recevoir les familles. De les cercles qui étaient à l'intérieur des cloîtres. Et après, il avait une chose un petit peu plus publique. Les charpentes sont deux, ils sont magnifiques, avec beaucoup, beaucoup d'éléments. Par exemple, là, on est en train de travailler sous la charpente de le grand bâtiment, et qu'il vient d'être démonté en collaboration avec la société Asseline, qui s'occupe de les travaux. Je pense que c'est eux qui l'ont fait, la flèche à Notre-Dame.
Oui, oui, oui.
Et sont 750 pièces, tout en bois.
Oui.
Et là aussi, on est en train d'imaginer de faire un travail sur la... découvrir où sont été coupés, quel âge il a, pourquoi des fois on réutilisait même des charpentes. C'est ça la partie plus grande. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de sauver ce bâtiment dans la pluie qu'il a détruit tout.
Bien sûr.
Alors c'est impressionnant.
Alors ce bâtiment, c'est, je crois, trois niveaux.
Oui.
Avec trois pièces de 300 mètres carrés chacune. Donc ce sont des espaces gigantesques.
Oui.
Et je comprends que effectivement ça a été ce qui vous a conduit vers le choix de cette propriété plutôt qu'un château, parce que dans des espaces aussi vastes, on peut imaginer toutes sortes d'activités les plus invraisemblables.
Oui, c'est vrai, c'est de très très bel espace. Bon, il faut venir pour les voir.
Bien sûr, mais si j'en parle, c'est pour inciter nos auditeurs à venir vous rencontrer.
Bah, tous les éléments de ce voyage qu'on fait avec Tal, ils sont assez intéressants. Par exemple, ni oiseau, ça vient dans les latins nido avis, c'est ni des oiseaux.
Oui.
Et c'est assez poétique. Il signifie que c'est comme c'est doucement, doucement. Nous, on est venus ici avec une sorte de folie. Tout d'un coup, on a laissé Paris et on est venus ici. Et on découvre chaque jour une jolie surprise. Voilà, qu'elle fait si que ça nous réconforte à notre choix.
D'accord. Alors, il y a aussi un projet lié à la biodiversité.
Oui.
C'est assez particulier. Expliquez-nous quel est ce projet.
Ok. Alors, quand nous sommes arrivés à l'abbaye, on a découvert qu'il y avait une colonie de chauves-souris. Et ce qui a lancé un dialogue avec une association pour les protections de vie sauvage. Et on s'est engagé pour toujours de dédier un espace pour cette colonie de chauves-souris. Et ils sont à l'abri. Nous étions demandé de créer une sorte de couloir naturel qui lui permet d'accéder à leur espace librement, abrité de regards. Et puis, la même collaboration, il concerne aussi les oiseaux. Et des insectes
sauvages, oui. On a beaucoup de nids de martinets sous le mur carrément de l'abbaye.
Bien sûr.
Bah, les chauves-souris, c'est assez fascinant, quoi. Ils ne sont pas des pipistrelles. Alors, c'est vraiment deux types très particuliers de chauves-souris qui sont assez rares et qui, avec un arrêt préfectoral, ils sont sauvegardés.
D'accord.
Voilà. Bon.
Alors, parlons un peu financement tout de même, parce que c'est un projet lourd. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un million d'euros pour la restauration, mais en fait c'est le début d'un projet.
Oui.
Après, vous avez acheté en même temps la grange,
oui,
qui est aujourd'hui abritée par une couverture provisoire, qui est un lieu assez magique,
oui,
et qui devra être restauré une fois que les premiers travaux seront achevés.
Ouais.
Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un peu quelle est la clé de répartition financière de cette première tranche d'un million d'euros de travaux? Le ministère de la Culture, au titre des monuments historiques, a déjà abondé le projet?
Oui. Alors, on a le support de la DRAC.
Oui, ça, c'est le ministère de la Culture.
Voilà,
oui.
On a le support de la région et de le département.
Et le département.
En plus, l'année dernière, on était le projet choisi par la Fondation de patrimoine, la mission Stéphane Bern.
Mission Stéphane Bern, oui.
Alors, vous voulez des montants?
Non. Non, mais je sais quand même que...
Alors, c'est une chose que j'aimerais bien vous dire. On aimerait bien vous dire qu'on a commencé ce projet avec cette montant d'un million d'euros. Par contre, je peux vous dire que chaque jour, ça sort des surprises qu'il ne fait pas rigoler.
Bon.
Et tout ça devient très complexe et à niveau de gestion, à niveau financier aussi.
Hmm. Non, moi, ce que je voudrais surtout dire, c'est que la Fondation du patrimoine départemental a lancé une souscription pour permettre de vous aider financièrement dans cet énorme projet, que les dons versés dans le cadre de cette souscription bénéficient d'avantages fiscaux notamment, et que chacun peut aller mettre un peu de ses deniers dans cette souscription pour vous aider, et je crois que vous en aurez besoin très longtemps encore.
Oui, on aurait bien besoin, même 1 euro, 10 euros, qu'est-ce qu'on peut, quoi. C'est vraiment, je répète, cette notion des surprises qu'on n'attendait pas du tout. Et que c'est assez importante. Quand on imagine, par exemple, juste pour vous donner une idée, les lucarnes, qui sont 5, qui ont été bâties après la Révolution française, ont été bâties sous la charpente. Alors, les moments qu'on a démonté les lucarnes, on a découvert
une
horrible.
Surprise.
Voilà.
Alors, Dominique Maurizio Tal, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci pour cette découverte de l'aile ouest de l'abbaye de Nyoiseau. Je vous avais promis un livre de la rentrée littéraire. Ben, ce sera pour la prochaine émission, le 6 novembre. Parce que là, Marie-Jo, ben, on n'a pas le temps. Merci. Merci de cette souplesse. On va finir cette émission. C'est la fin de ce Franche Culture. 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci à Étienne pour la technique. Merci, merci beaucoup. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h. Et bien sûr, en podcast. N'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.